Le bouillon, c'est l'art de goûter le temps. Le temps de transformer de l'eau en un élixir de saveur.
Le goût du monde,
c'est une source d'interprétation, de créativité assez exceptionnelle, le bouillon.
Clémence Denavy.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde, bienvenue à notre table. Sur le feu, là, juste à côté de nous, mijote tout doux l'ingrédient phare de notre voyage dans les cultures et les marmites du monde. Il ne paye pas de mine, pourtant il est partout, il sert pour tout, subtil, discret. Il est la base, le commencement, c'est le bouillon. Il est ici et là, de tous les continents, de toutes les cultures, depuis la nuit des temps, à toutes les heures de la journée et à tout âge de la vie. Il fait le lien, parfois presque inconsciemment, entre la petite forme et le bien-être, entre ce que l'on mange et ce qui nous soigne, ce bouillon. Et puis il nous lie aussi, ce bouillon de Jennifer, ce bouillon aussi réconfortant que revigorant. Jennifer Hart-Smith, bonjour.
Bonjour Clémence.
Ça vous plaît?
C'était bouillonnant, j'ai adoré.
C'est parfait. Pâtissière à double culture, française et australienne, bienveillante autrice de Bouillon bienfaisant qui vient de paraître chez Hachette Pratique et naturopathe. Alors ce n'est pas un titre que je lance là juste comme ça pour vous présenter, mais parce qu'il a un réel sens, ce titre et cette fonction, cette vocation de naturopathe.
Bouillon bienfaisant et de bouillon. Tout à fait. En fait, l'association entre bouillon et bienfait, elle est quasiment systématique. Quand quelqu'un vous parle d'un bouillon, on sent que c'est presque un peu une sorte de Madeleine de Proust qui a un effet effectivement...
Ça l'est réconfortant.
Réconfortant. On ne va pas parler de curatif au sens où quand on a des maux, ce n'est pas ça qui va nous sortir de la maladie. Mais par contre, ça peut soutenir vraiment l'organisme dans des périodes où on est affaibli, vulnérable et... Et on sent qu'il y a une dimension
très affective
et qui remonte à l'enfance chez beaucoup de personnes.
Vous me parlez de chicken broth, là,
tout
ce petit
fait.
Bouillon de poulet
exactement.
Décliné à toutes les sauces.
Auquel on pense quand on a le rhume, exactement.
Plus le temps passe, en fait, plus j'ai l'impression que cette attention aux autres, au bien-être, à la santé, par la nourriture, devient un peu centrale dans votre approche.
De plus en plus, parce que j'ai beaucoup de mal avec le côté restrictif de l'alimentation, les injonctions qui rajoutent beaucoup de charge mentale à nos vies. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant effectivement de donner envie. Et c'est le fait d'inspirer, le fait de retourner même à la genèse de ce qui peut nous faire saliver et se mettre au fourneau. Et donc effectivement, je trouve que la santé doit passer par la gourmandise. Et la gourmandise, elle est indissociable de la santé. Donc... Mon objectif, il est toujours de donner envie et de donner beaucoup d'informations pédagogiques pour qu'on ait envie de prendre soin de soi.
Ça, c'est une vraie pépite.
Merci
à chaque
beaucoup.
Page, plein d'informations très diverses, très variées. J'aimerais bien que vous me racontiez votre dernier bouillon. Où est-ce que vous l'avez
le
mangé?
Tout dernier bouillon. Alors, il y en a
enfin, celui qui vous a peut-être un peu marqué.
Alors, il y en a eu deux. Il y en a eu un que j'ai pu déguster chez Matka. C'est le chef Piotr qui est polonais et qui fait un bouillon avec du levain de seigle. On trouve quand même cette association entre le bouillon et l'acidité quasiment partout. Parfois, ça va être le citron vert ou le vinaigre. Mais là, c'était le levain, effectivement, avec ce petit goût aigrelet. Et en fait, quand on réfléchit d'un point de vue santé, c'est tellement juste. Il avait quelque chose d'extrêmement réconfortant. Il y avait un goût un peu beurré, de céréales. Cette odeur du levain qui est aussi ce côté un peu ultra frais et vivant. Donc, j'ai vraiment adoré. Et après, il y en a eu un deuxième qui était chez moi. Et là, c'était vraiment la soupe de poulet pour aider mes enfants à sortir du rhume avec beaucoup de gingembre.
À l'occasion de l'écriture de ce livre, vous avez décidé et choisi de mettre en avant plusieurs chefs, artisans de cultures différentes.
Bien sûr.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est tellement collectif et qui est propre à toutes les cultures. C'est assez agréable de se rendre compte que, surtout dans notre époque où il y a beaucoup de problèmes géopolitiques, en fait, quand on commence à rentrer dans la littérature historique de la cuisine, on se rend compte qu'il y a tellement de liens et le bouillon, c'est un peu ce qui rassemble vraiment tout le monde. Il a une place de choix vraiment dans toutes les cultures. Et en plus, il a une place effectivement réconfortante, mais encore en lien avec la santé. Donc effectivement, j'ai eu envie que ce soit un projet plus collectif et de récolter la parole à la fois émotionnelle, affective et technique des chefs et de certains praticiens de santé aussi et des regards plus scientifiques aussi. Parce que est-ce que vraiment le bouillon a une dimension bénéfique et curative, ça m'intéressait d'avoir aussi le regard scientifique.
Presque une validation ou pas? Juste
exactement,
un intérêt.
Tout à fait. On a tendance à beaucoup aussi opposer justement les disciplines de soins, que ce soit la médecine avec les médecines dites douces et alternatives. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce qu'en fait, quand on est dans une approche plus intégrative,
c'est le cas de la naturopathie. On est vraiment à 360 degrés.
Exactement. On est sur de la pédagogie et on est sur l'éducation de la santé avant que ça aille mal. Quand ça va pas bien, on va voir le médecin. Mais avant que ça aille mal, il y a plein plein de choses à faire. Et ça m'intéressait d'avoir effectivement de rassembler aussi cette parole scientifique, justement pas pour opposer, mais pour enrichir.
Enrichir.
Voilà, il y a Emily Steinbach qui est une neuroscientifique. Et quand je lui ai demandé si elle voulait bien que je la questionne à ce sujet, elle m'a dit, bah attention, peut-être que je pourrais ne pas valider ton propos. Et je lui ai dit, bah, il n'y a pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est d'enrichir, c'est d'avoir le regard de la médecine. Et après, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà.
En tout cas, on se pose une question. Le bouillon, base, aide culinaire également. C'est une source d'eau, c'est un repas en soi, la plus simple et peut-être la plus évidente des cuisines. Elle est peu chère, empirique, intuitif.
Totalement.
En somme, totalement magique. Multifacette également, ce bouillon universel et multiculturel. Un bouillon pour note de fond d'une gastronomie. Ça, vous l'avez retrouvé à plusieurs reprises, le côté dashi. Penchons-nous une seconde sur ce bouillon dashi.
Sur ce bouillon dashi qui est vraiment la base de la cuisine japonaise. Donc, il y a une base de kombu, gingembre, shiitake et de la bonite qui apporte le côté un peu fumé. Mm-hmm. Et il se déguste aussi bien chaud que froid. Et on l'utilise comme une aide culinaire ou comme une base de soupe miso. Une soupe miso, d'ailleurs, est faite à base de bouillon dashi. Et on le retrouve que ce soit du petit déjeuner tout au long de la journée jusqu'au soir avant de dormir.
Et on l'emporte en voyage. Maori Morota.
Tout à fait.
Qui a écrit la cuisine quotidienne du
oui,
Japon,
exactement.
Cuisine de la maison, que nous avions reçue dans Le Goût du Monde et qui nous avait bien sûr parlé de ce dashi incontournable.
Les premières nourritures qu'on a introduites à bébé, c'est du riz, c'est du congee. C'est pas de purée de carottes, en fait. Chez nous, c'est du riz. Et après, soupe de miso diluée avec l'eau. Comme ça, il n'est pas très, très salé. C'est la base. Donc,
bébé.
Nous, on a déjà dans le sang le soupe miso et aussi le dashi. Le classique, c'est la base de bonite séchée. Et puis, kombu, c'est les algues. Et bonite séchée, c'est souvent écrit bonite séchée de katsuobushi. Mais c'est le produit de fermentation. En fait, de temps en temps, c'est pas visible. Pour mijoter des légumes, on met le dashi. Pour le bouillon, bien sûr, on met le dashi. Mariner, on met le dashi. En fait, nous, on met le dashi partout. Quand vous buvez, par exemple, de soupe miso avec le vrai dashi, de bonite séchée, des kombu, et ça fait waouh, ça s'ouvre dans votre bouche. Mais j'arrive pas à expliquer. Très bien. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, ça crée la profondeur du goût.
Tout est dans ce wow.
Je l'adore.
On est d'accord. Et alors, ce qui est étonnant, en plus, avec ce dashi, c'est qu'une première fois où nous avions parlé de comment être en forme, vous nous aviez parlé avec Alcidia Vulbo, l'une de vos amies qui se trouve également dans le livre, de ce dashi. Il y a eu une révélation dashi chez toutes les deux et chez la plupart des gens quand on goûte ce dashi, quand on commence à faire sa connaissance.
Mais c'est parce qu'en fait, il apporte aussi le côté assaisonnement, la sapidité et à
la
partir
sapidité,
du moment...
c'est l'art de donner du goût.
Exactement, mais pas forcément en amenant une lourdeur digestive, justement. Il y a une forme de digestibilité qui est très agréable. Et c'est comme s'il y avait toutes les saveurs dans ce dashi. Il y a vraiment le doux, on ne va pas parler de sucré, mais quelque chose de vraiment doux, salé, il y a l'umami. Et on a du mal à s'en passer, mais contrairement à d'autres condiments, comme par exemple la sauce maggi ou la sauce soja, il y a quelque chose de très, très doux en note de fond. Il ne prend pas le pas sur les ingrédients. Il a juste, c'est comme si juste c'était une caresse qui englobait. Donc effectivement, c'est une révélation, on a du mal à s'en passer après.
Est-ce qu'à l'occasion justement de vos recherches, de vos entretiens, de vos rencontres, vous avez fait des découvertes. Parce que ça fait un moment que c'est un sujet que vous aimez.
Ce qui était absolument passionnant pour moi, c'était de découvrir que le bouillon, quand on est dans une approche d'extraction des nutriments, c'est-à-dire minéraux, oligo-éléments, collagène, on fait des bouillons qui sont très longs, je veux dire vraiment en France, en Europe, en Occident ou même aux États-Unis. On a cette dimension où les bouillons doivent être faits pendant 6 heures, 8 heures, à feu très doux, pour extraire les matières qui nous intéressent, bienfaisantes justement. Mais dans la médecine chinoise, un bouillon, il dépasse jamais 1h30.
On considère que c'est dans la cuisson.
On considère que c'est largement suffisant. Et ce que j'ai trouvé aussi passionnant, et ce qui est extrêmement déculpabilisant, c'est que les bouillons, par exemple au Cambodge, c'est 15 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on a le bouillon, c'est un thé de viande ou un thé de légumes. Donc on va faire revenir un peu des ingrédients, ça peut être très simple, ça peut être un oignon, un petit bout de viande avec un peu d'ail et de ciboule ou du gingembre. On fait cuire tout ça dans une casserole, on fait bien maillardiser au sens où on fait sortir les sucres, les goûts. Ensuite, on mouille. avec de l'eau, on réduit le feu, on laisse ça 10 minutes et ça y est, c'est ça notre bouillon. Et ça, j'ai trouvé que c'était... Et on peut rajouter un peu d'algues, de nori ou de l'assaisonnement, mais j'ai trouvé que c'était chouette d'apprendre qu'un bouillon, ça pouvait être fait en 10-15 minutes.
Et c'était à la portée de tout le monde, avec ce qu'on a autour de soi.
Un oignon, par exemple, on fait revenir un oignon, on le fait bien dorer, on mouille, on rajoute une petite pincée de sel et ça suffit. L'oignon. On a un bouillon d'oignon qui est quand même assez universel et facile à trouver. Et en plus, il y a vraiment des vertus, justement, anti-inflammatoires. Ça permet aussi d'accélérer la sudation. Quand on est malade, ça soutient aussi toute la partie ORL. Vous voyez, quand vous coupez un oignon, vous vous mettez un petit peu à pleurer, bah dites-vous que ça fait le même effet à l'intérieur. What's the use of us arguing? Won't you let me sing? You are tuned all night long. You've been thundering. You would take a swing at the moon. Another dream goes to your head. Another thing you think I said, but just don't look into the past for very long. So say goodbye to everyone who ever looked into the sun. You know it didn't last for long.
Take a swing at the moon, Gabi Hartmann sur RFI, titre choisi et mitonné par l'équipe de la playlist de la Radio du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez Le Goût du Monde, des bouillons partout pour tout, des bouillons salvateurs, des bouillons de mémoire, des bouillons de culture, évidemment. Avec Jennifer Hartsmith, pâtissière naturopathe, autrice du merveilleux bouillon bienfaisant chez Hachette Pratique. Alors de quelle manière est-il transmis ce bouillon? Parce que c'est une question que vous avez posée à toutes les personnes qui sont dans le livre et que vous avez rencontrées et interrogées. Comment est-il transmis?
Déjà au sein des familles, parce qu'effectivement, il y a une pratique, quand on est malade, il y a vraiment cette dimension où quand on est malade ou quand on grandit, on sait qu'on va faire un bouillon à ses enfants. Donc par les odeurs, en faisant avec et en le dégustant. Et justement, je discutais aussi sur la partie transmission des ingrédients qui sont bénéfiques à la santé ou qui seraient en faveur d'une rémission, sur par exemple un petit rhume. Et bien effectivement, c'est quand on déguste qu'on transmet. Voilà, il faut mettre du gingembre, c'est bon pour le rhume. Après, c'est forcément une transmission empirique, c'est-à-dire qu'on n'explique pas spécialement pourquoi et comment. Et c'est là où, effectivement, la partie scientifique m'intéressait. Mais c'est au sein des familles que les meilleurs bouillons se transmettent.
Et puis, qui livrent ensuite de merveilleux plats. On le dit depuis le début de cette émission en filigrane. Ce bouillon, il est bienfaisant. C'est le titre de votre livre. Mais au-delà de ça, c'est un bouillon qui va vous apporter plein de choses. Et à tous les âges de la vie, Mauro Morota, elle raconte d'ailleurs cette bouillie de riz donnée au petit bébé. C'est pour la femme enceinte, l'enfant.
L'okayu au Japon. Le congi en Chine, qui porte encore d'autres noms dans d'autres cultures.
Les bouillies de mil.
Les bouillies de mil, ces bouillies de céréales. Alors c'est bien le seul endroit où on a le droit de foirer sa cuisson du riz et des céréales, ce qui est quand même pas mal déculpabilisant aussi. Et effectivement, c'est l'amidon qui est modifié, qui va agir un peu comme un pansement sur tout le système digestif et encore plus les intestins. Il y a vraiment cette notion d'apaiser le feu. Donc effectivement, le fait qu'il n'y ait que de l'amidon, c'est aussi très digeste pour les bébés, pour les enfants, pour les personnes âgées qui ont du mal à mastiquer. Et il y a aussi une dimension énergétique, voilà, c'est des glucides, mais des sucres simples. Donc la bouillie de riz enrichie avec du bouillon, ouais, c'est très très intéressant pour tous les âges.
Vous avez dit on a le droit de rater sa cuisson,
oui,
parce qu'il y a une manière de faire. Donc cette bouillie, c'est
de riz.
Voilà.
Y a une très petite quantité de céréales versus une grosse quantité d'eau, et on attend que les, on le fait cuire très longtemps et très doucement, et on attend que les céréales se délitent. Ça devient presque une eau gluante, enrichie d'amidon. Ça peut sembler pas très appétissant comme ça, mais effectivement après on amène, voilà, la sauce poisson, le nyokman ou du tamari, du gingembre, et là il y a quelque chose de très, ouais, comme un pansement intérieur. On parle presque un peu de liquide amniotique. Vous voyez, il y a quelque chose de très régressif.
Il y a tout un imaginaire assez sacré quand même.
Assez sacré. Moi, je m'en suis rendu compte en discutant avec tous les chefs que j'ai interviewés. Après, il y a plein de pratiques qui sont pleines de bon sens. Par exemple, j'ai aussi en souvenir le récit de Minou Sabadi, qui est une chef iranienne dont j'adore le travail, où tous les bouillons sont enrichis après avec du cru, des herbes aromatiques qu'on cisèle très finement et qu'on rajoute au dernier moment. On fait ce qu'on appelle des tombées d'herbes. Elle appelle ça des hoche-paz. Et il y a aussi effectivement le riz trop cuit et tout. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a quelque chose de très complet dans la dimension macronutriments et micronutriments. Et ce qui nous intéresse, nous, dans les bouillons d'un point de vue santé, c'est cette richesse en micronutriments.
On est d'une liberté totale. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on commence à mettre son nez un peu dedans, on peut se dire, bah tiens, j'ai peut-être besoin, je me sens un peu fatiguée, donc je vais peut-être chercher telle herbe, telle épice.
Exactement.
Qui va me permettre de me remettre un petit peu, retrouver un peu de forme.
C'est comme ça que j'ai organisé le livre, je l'ai organisé par chapitre. Où on identifie des périodes, comme je disais, de vulnérabilité, de fragilité, où peut-être on n'est pas au top de notre forme. Ça peut être même ne serait-ce que le postpartum, où le postpartum, dans chaque culture, il y a quand même une alimentation qui est adaptée au postpartum. Mmh. Les bouillons, justement, ils ont une très grande place dans le postpartum.
Il y a toute une littérature culinaire, autour de comment accompagner la jeune accouchée,
avec
la maman.
Avec le mois d'or aussi. Où on utilise davantage, par exemple, des pieds de cochon, parce qu'il y a une très grosse... Ou des pieds de veau pour les personnes qui ne mangent pas de cochon, où il y a une richesse en collagène. Il y a aussi, effectivement, les épices qu'on va utiliser, qui vont avoir une dimension réchauffante, ou qui vont calmer le feu aussi. Le gingembre, qui est quasiment de tous les bouillons, parce qu'il y a à la fois ce chaud et en même temps ce froid. Il y a aussi la coriandre. Après, on utilise... C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la culture chinoise et qu'on n'a pas trop en France. C'est-à-dire que nous, on a cette approche un peu avec les tisanes, et elle l'explique très bien Martine Blaise dans l'interview.
On utilise Duper
Blaise à Marseille. Exactement. Elle utilise
l'herboristerie.
Elle utilise les plantes dans des tisanes, mais cette pratique d'enrichir nos bouillons, même un simple bouillon de poule ou un bouillon d'oignon, de l'enrichir avec des plantes, avec des tropismes et des vertus, nous, on le fait très peu, alors qu'en fait, peut-être qu'on consommerait plus de plantes de cette façon que des tisanes, parce qu'il y a une dimension gourmande aussi.
Partons au Sénégal un instant, parce que c'est une base de certains plats, et c'est très très fréquemment utilisé en cuisine française. Le bouillon devient fond, devient sauce, devient plat. Et au Sénégal aussi, le bouillon, il est fondamental. Il est à la base du tiéboudienne, par exemple. Aïssé Toumbay, cuisinière, blogueuse, amie du goût du monde, vous avez raconté donc ce nok-nok-nok-nokos.
Le mot nokos, on dirait que ça vient du mot nok, qui veut dire taper, tabasser, écraser en wolof. D'autres personnes disent que ça vient du mot anglais knock, qui veut dire, voilà, taper. Mais voilà, en tout cas, knockas, c'est le fait d'obtenir une sorte de pâte en tapant des ingrédients dans un pilon en mortier, notamment de l'ail, des oignons, beaucoup d'herbes fines. Ça va être soit, voilà, des oignons cébettes ou de la coriandre ou du persil qu'on utilise beaucoup dans la cuisine sénégalaise. Du piment frais, du piment végétarien, du piment sec, ça dépend de ce qu'on cuisine. Et généralement même beaucoup de piment végétarien, du piment vert comme on l'appelle au Sénégal, qui pique pas, qui est là juste pour parfumer, mais pas pour, voilà, piquer dans la langue. Au Sénégal, on n'a pas énormément d'épices comme par exemple dans la cuisine camerounaise. Par contre, on utilise beaucoup les produits de la mer, crevettes, séchées, voilà,
séché.
C'est ça. Qu'on utilise le gedge, le yeet, qui donne ce côté, ce goût un peu fermenté, que les Asiatiques disent goût umami. Pour nous, c'est la base de notre cuisine. Mmh. Donc le nokka, c'est pareil. C'est un mélange d'ingrédients pour assaisonner.
Pour assaisonner.
Avec des vertus incroyables. Incroyable. Tout ce qu'elle y met, justement, sont des ingrédients qui sont anti-inflammatoires, réchauffants. Le nokka, c'est partout tout le temps.
Quand vous avez rencontré Aïssatou, cette discussion, elle s'est passée comment ?
Elle m'expliquait qu'effectivement, il y avait une tradition de bouillon qui était très, très importante et qu'après, il y avait aussi, comme on a pu connaître en France, une récupération par l'industrie du bouillon, les cubes, beaucoup d'additifs et que la dimension santé avait disparu. Donc elle essaye de réintroduire justement toutes les pratiques à la fois faciles et qui se faisaient avant cette dimension traditionnelle et avant l'industrialisation. Et justement, en parlant de tout ça, je me suis dit que c'était génial aussi d'avoir des bouillons tout prêts, minutes, limite qu'on cuisine quand on va bien pour les jours où on va mal, quoi, je veux dire.
Donc on peut de toute façon préparer son nokka, le garder au frais, le mettre dans l'huile bien un sûr. Petit peu, ça se conserve un petit moment quand même.
Ça se conserve un petit moment, je crois qu'elle a une version un peu plus verte avec plein d'herbes aromatiques.
Absolument.
Une version un peu plus rouge, plus pimentée. Donc après, on utilise le nokka selon la météo intérieure.
C'est étonnant aussi de voir de quelle mémoire il se niche. Ces bouillons. À chaque fois qu'on parle d'un bouillon, forcément, quelqu'un a une histoire de bouillon, un lien affectif. Et ça fait ressurgir aussi des cultures pas oubliées, ou en tout cas, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de mettre en avant. Je vois les effets sur les réseaux sociaux de vos bouillons, réinterprétés par des gens qui sont des lecteurs. Bien sûr. Je pense à Bofa, notamment, qui a fait un bouillon khmer.
Oui.
Et tout ce monde qui se lie à nouveau.
En fait, c'est là où on sent que les bouillons, ça évoque quelque chose de l'ordre des souvenirs intérieurs un peu lointains.
Et culturel, identitaire.
Et culturel, identitaire très fort. Et les épices sont garantes aussi de comment on prépare les bouillons dans les différentes cultures. Il y a par exemple le pho dans les cultures, enfin au Vietnam, où il y a vraiment une pratique de anis étoilé, cannelle, des graines de coriandre. Et c'est les épices qui sont propres au pho. Et dans d'autres cultures, il y a des épices qui vont être beaucoup plus de l'ordre de l'oignon séché, du gingembre. Et dans certaines cultures, par exemple, on ne va pas mettre ces épices réchauffantes. On va mettre, comme je disais, par exemple, en Iran, on va mettre juste un oignon, ça suffira, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait un côté trop chaud, trop pimenté, chargé, qui va prendre le goût sur les légumes frais. Donc vraiment, les bouillons, autant de pratiques gastronomiques que de bouillons. Il aurait dû faire le triple presque, le livre.
Oui, c'est ça. À un moment, c'est ça. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on se dit que toute personne qui doit quitter son pays, qui d'ailleurs Maori Morota en parle aussi, on emporte avec soi les éléments qui vont signer cette petite eau.
Exactement.
Et dans lesquels on va emporter son bouillon avec soi et reconstruire.
Vraiment eu ce discours aussi avec Suta Sambi, qui fait le rassam.
Le rassam,
Sri Lankais. Quand il est malade, Sri Lankais. Et d'ailleurs, il travaille avec mon mari, et quand mon mari était malade, il a eu le droit à son rassam. Donc c'était vraiment sa petite botte secrète. Ça, j'ai trouvé ça très touchant.
Le goût du monde sur RFI.
Comme vous l'avez dit au tout début de cette émission, c'est une Madeleine de Proust et un vrai ancrage. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on peut voir que certains bouillons sont partis, puis sont revenus, puis on se les est appropriés. Mmh. Par exemple, Manon Fleury, qui est cuisinière, donc restauratrice, chef du restaurant Datil à Paris, vous parle du bouillon du couscous.
Oui,
elle, c'est ça qui l'émeut.
Et j'ai l'impression que c'est vraiment sa Madeleine de Proust à elle, et que ça signifie presque une espèce de repos de ce que j'ai ressenti dans ses écrits et dans l'interview. Ça signifie presque une sorte de repos de l'âme, parce que c'est une personne qui est très occupée et qui cuisine beaucoup et travaille énormément. Et donc ça signe quelque chose de l'ordre du repos dominical presque. Et qu'effectivement, il y a quelque chose pas juste réchauffant, ça vient déposer quelque chose.
Mais ce qui est amusant, c'est que c'est un bouillon du couscous, donc d'un plat d'Afrique du Nord, qui est premier plat en France.
Exactement.
Quasiment. Donc on est dans des allers-retours avec ce bouillon aussi qui lie tous les continents.
Et totalement. Et elle a d'ailleurs une pratique de bouillon très importante dans sa cuisine, puisqu'elle accueille toutes les personnes avec systématiquement un bouillon qui serait plutôt une infusion. Mais effectivement, moi j'ai eu une très grosse émotion sur son bouillon de pommes de terre, plutôt que de manger des chips, il y avait la même joie à boire ce bouillon que si je mangeais des chips. Il y avait vraiment ce côté réconfortant de la pomme de terre salée, quoi, vous voyez.
Je me disais aussi parmi les ingrédients, donc peu d'ingrédients en définitive.
On n'a pas besoin de grand-chose. Après, moi j'ai forcément transmis dans le livre aussi des recettes, par exemple le pho, il est assez complexe, il y a quand même pas mal d'épices. Donc j'ai transmis des recettes classiques du pho, mais par contre, c'est important que si on n'a pas un ingrédient, on puisse revenir à la base. Et la base, franchement, c'est l'oignon, le gingembre et l'ail.
Je vous propose quand même, et si on allait se renseigner un petit peu sur comment faire un bon pho?
Je prends là, cardamome, coriandre, graines de coriandre. Avec le fenouil aussi.
Ah oui, ça.
Cannelle.
Oui.
Tout le monde a passé quoi. Oui, avec de...
Avec du poivre.
Et c'est pas poivre. Noix de cadre, une moutasse.
Oui, la noix de muscade, d'accord.
Voilà, c'est tout.
Et c'est
avec,
tout.
Oui, avec de l'oignon. Oui. Avec mais, de gingembre.
Mais oignon, on va prendre un oignon ou de la cébette, par exemple, comme vous avez derrière. C'est magique chez vous, hein.
Oui. Mais en fait, c'est ajouté un... Bayane.
Ah oui,
voilà.
Oui, oui.
Là aussi dedans.
L'anis étoilé. Et donc, quand je commence mon feu, je fais comment?
Vous prenez le marmite, je mets de l'eau dedans. Mm-hmm. Après, vous ajoutez l'hibis, tout là. Mm-hmm. Après, vous ajoutez du radis blanc avec du viande de bœuf, avec les os. Des os de bœuf aussi. Mettez tout là, après, goûter les goûts. Je mets des sels, je mets du sucre dedans. C'est bon? Si je fais le pho, c'est bon pho, il faut faire aujourd'hui, le lendemain, le manger. Une nuit, comme ça.
Mais à mijoter ou à rester posé et à dormir.
Ouais. Voilà, c'est comme ça, après c'est bon pho. Sinon, le manger tout de suite, c'est pas bon.
On était chez Tambin, donc ça, c'est dans le 5e arrondissement de Paris, dans l'une des boutiques historiques vietnamiennes de Paris. Puisqu'on est au Vietnam, juste un dernier mot. Je sais que vous êtes allée au Vietnam il n'y a pas tellement longtemps.
L'année dernière.
Et vous vous êtes gorgée d'herbes, de saveurs différentes. Est-ce que c'est ça aussi que permettent...
Mais c'est vraiment, par contre, cette omniprésence du bouillon dès le petit déjeuner qui m'a énormément touchée. Et effectivement, je pense au roram, qui est une herbe aromatique incroyable qu'on ne trouve pas beaucoup, je trouve, ici. Qui a des arômes un peu poivrés, et ce côté vert aussi. Et puis, cette qualité d'herbe fraîche, effectivement, la coriandre. Mais ce n'est pas juste des petites pousses quoi, qu'on met, c'est des bouquets entiers. C'est très aromatique. Et puis, il y a vraiment ce côté presque bouillon qui sert d'infusion pour les herbes fraîches.
C'est ce que dit d'ailleurs Priscilla. Elle se couche tard puisqu'elle est chef cuisinière de son restaurant. Et du coup, le matin, le mieux pour elle, c'est de, comme on n'a pas forcément faim, un bon bouillon, des saveurs.
Et il y a beaucoup de chefs qui ont dit qu'ils ont parfois le palais extrêmement saturé de cuisine et que le bouillon permet une sorte de reset, de laver vraiment les papilles, le palais. Et ça leur permet de retrouver le désir aussi de cuisiner et de rajouter après du beurre, des choses et tout.
D'avoir faim à nouveau.
D'avoir faim à nouveau. Pour eux-mêmes et du coup pour leur clientèle, c'est important.
C'est complètement important. Merci beaucoup Jennifer.
Merci beaucoup Clémence.
Bouillon bienfaisant est publié chez Hachette Pratique. Vous y puiserez inspiration et bien-être. C'est une pépite. Les liens pour vous suivre Jennifer sont sur la page du Goût du Monde. Pour vous abonner aussi à votre newsletter.
Oui.
Hein, c'est un bonheur chaque semaine, un petit
Merci
cadeau qu'on reçoit. Couplé avec le Goût du Monde, vous avez une patate incroyable une fois que vous avez fait Goût du Monde plus votre newsletter, on est nickel, on est très bien. Merci à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Pour l'écouter, c'est facile, en direct, en podcast sur Pure Radio ou bien votre application préférée. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine à tous et bien sûr, une très bonne année à tous.